L'abécédaire du tennis.
Match.
Ramasseur.
Vétéran.
Tournoi.
Classement.
Beach tennis.
Interclub.
Jeu, set et match.
Zéro.
Ah, mais c'est nul le couloir.
Ah, j'ai gagné une seule fois dans ma vie à 4-6.
J'ai pas de mots, j'arrive pas à parler, juste à vous dire merci, c'est fabuleux.
H comme histoire. C'est un patrimoine précieux qui témoigne de la riche histoire du tennis. Le kit du Major Wingfield, la machine lance-balle de René Lacoste, la tenue de Mary Pierce victorieuse à Roland-Garros, ces trois objets iconiques racontent chacun à leur manière une page de l'histoire du tennis. À la découverte du patrimoine de la FFT, nous débutons la balade autour d'un objet de 1874, le kit du Major Wingfield.
C'est une grande malle en bois rectangulaire qui s'ouvre par le dessus.
Lauriane Labesse, chef de projet au service patrimoine de la FFT.
Et qui contient à l'intérieur donc 4 raquettes en bois, un filet, des piquets et des balles pour pouvoir jouer à plusieurs au jeu de tennis.
Officier britannique à la retraite, le Major Wingfield pratique d'abord ce nouveau jeu dans son jardin. Mais il voit déjà beaucoup plus loin.
On le voit toujours avec sa barbe, son habit militaire et sa raquette, mais c'était aussi un homme d'affaires.
Thierry Bernard Tambour, historien.
Ça foisonnait, hein. Il y avait plein d'essais à l'époque de jeux de balles. Et le Major Wingfield, il arrive un peu dans cette course au nouveau sport, au nouveau jeu.
Contrairement à l'idée reçue, le Major Wingfield n'est pas le premier à avoir l'idée de ce nouveau sport de raquette.
Il y a déjà dans les années 1860 des essais de proto-tennis, on va dire, grâce notamment à la vulcanisation du caoutchouc qui permet un meilleur rebond de la balle, même si la légende qui est fausse donc a tendance à lui attribuer la création du tennis moderne. L'intérêt du Major Wingfield et de son kit est malgré tout important parce qu'elle a permis la vulgarisation.
Le sens des affaires de l'ancien militaire et l'ingéniosité de son kit font la différence.
Ce kit, on le transporte partout. Et en plus, la raquette est légère, la balle bondit, c'est accessible aux femmes. Tout ça, ça va permettre un essor comme jeu de plein air, comme jeu ludique.
Mais cette première version est encore très loin du tennis pratiqué aujourd'hui.
C'est plutôt du divertissement. Voilà, on a des raquettes, on a une balle, un filet, on échange autour de ça, mais les règles sont un peu confuses et pas très bien définies. Pour que ça puisse prendre encore plus d'ampleur, il va falloir codifier un petit peu mieux les règles pour pouvoir le rendre plus accessible et surtout qu'il se diffuse au plus grand nombre.
1875, les règles sont fixées au Marylebone Cricket Club. 1877, la première compétition est organisée à Wimbledon sous le nom de lawn tennis.
Le terme tennis vient du jeu de paume puisque c'est ainsi que les Anglais appelaient le jeu de paume depuis la fin du Moyen-Âge. Ça vient de tenez, puisque le coup de service, on prévenait son adversaire, donc les Français disaient tenez. C'est pour ça que pendant très longtemps, ça a été appelé lawn tennis, donc tennis sur gazon, jeu de paume sur gazon.
Fort de ce nouveau nom et de ses règles établies, le lawn tennis part à la conquête du monde en passant par la France.
On va avoir les Anglais qui vont voyager, notamment en France, sur la Riviera, à Cannes, aux villes, dans le sud-ouest, grâce à ce tourisme un peu élitiste. Le tennis donc, va ensuite connaître le succès partout sur le territoire européen et occidental en tout cas.
La visite se poursuit autour d'un objet détonnant à tout point de vue.
La machine lance-balle, la première machine lance-balle de René Lacoste, donc il a inventé en 1927. Donc elle possède une base en bois qui est montée sur 2 roulettes. Et donc sur cette machine est montée une sorte de canon. Et c'est là qu'on peut mettre les balles pour qu'elles soient éjectées. Et ensuite une manivelle permet d'orienter et de régler la vitesse de la balle.
Quand il invente cette drôle de machine, René Lacoste a 23 ans et il est déjà au sommet de son art. Avec les autres mousquetaires, Borotra, Cochet et Brugnon, il a participé à la première victoire française en Coupe Davis. Mais son talent ne se limite pas au tennis.
René Lacoste, bon, c'était un grand joueur de tennis, il a gagné beaucoup de titres, mais il était aussi inventeur, il avait beaucoup d'idées. Il lui est venue l'idée d'imaginer cette machine lance-balle qui remplacerait entre guillemets l'entraîneur avec des balles, des douzaines de balles qui se succèdent comme ça et qui permettent de répéter le coup qu'on choisit parce que la machine lance-balle permettait quand même d'orienter la trajectoire de la balle en fonction du coup qu'on voulait travailler.
Son appétence pour la science, le crocodile la met au service de sa performance. Son obsession, toujours améliorer son jeu.
C'était un perfectionniste. Et donc, il s'entraînait énormément. Il jouait beaucoup, il s'entraînait même dans sa chambre d'hôtel. Il tapait la balle. Il analysait le jeu de ses adversaires, leurs points forts, leurs points faibles. Et ensuite, sur le terrain, il arrivait, après cette analyse minutieuse, à gagner face à eux, d'un point de vue surtout tactique.
Quand René Lacoste arrête sa carrière à seulement 25 ans, pour des raisons de santé, il a tout le loisir de créer de nouvelles inventions. Et beaucoup vont rester à la postérité.
Il a commencé à mettre du sparadrap sur ses manches pour éviter que ça glisse ou qu'il ressente les chocs de la vibration. On peut dire quand même qu'il est à l'origine de l'invention du grip et aujourd'hui on ferait plus sans. Il est aussi à l'origine, un petit peu plus tard, de l'invention de la pastille anti-vibration. Dans les années 1960, il avait cessé bien sûr sa carrière de joueur de tennis, mais il continuait à être très investi dans un milieu professionnel d'ingénieur. Il a pensé et inventé la raquette métallique. Et le polo, qui aujourd'hui perdure encore sur les terrains, il a été à l'origine de beaucoup de changements dans les conditions de jeu du tennis et le point de départ de d'autres évolutions jusqu'à celles qu'on connaît aujourd'hui.
Notre visite s'achève autour d'un vêtement collector.
Donc le troisième objet qu'on a sous les yeux, c'est une robe, la robe de Marie Pierce, la robe qu'elle portait lors de sa finale à Roland-Garros en 2000, finale qu'elle a remportée. C'est une petite robe noire avec des bretelles fines blanches et un liseré blanc qui traverse le milieu de la robe.
C'est avec cette robe, sa longue tresse et son bandeau noir que Marie Pierce entre sur le court central pour débuter son 11e Roland-Garros avec un bon présage.
Pendant le premier tour, je me suis dit, c'est peut-être cette année. J'ai juste eu ce sentiment-là et... OK, bah, j'ai gardé ça pour moi. J'ai rien dit à personne. En fait, les choses étaient vraiment incroyables. Je jouais match par match et avec chaque match, je sentais que je jouais de mieux en mieux.
C'est une Marie Pierce transformée que le public découvre au fil des tours. Souriante, apaisée et portée par sa nouvelle spiritualité, la Française ne boude pas son plaisir. Et le public de Roland-Garros adore.
C'est sûr qu'à chaque fois quand j'arrivais en France, on attendait que j'arrive en finale ou que je gagne. Et ça m'a pris du temps à comprendre le public français, parce qu'ils sont tellement passionnés. Il veut tellement que je joue bien et que je gagne. Voilà, c'est le pays qui gagne quand on gagne Roland-Garros. C'est la fête nationale.
Symbole de cet état de grâce, ce coup contre Monica Seles en quart de finale, un des plus beaux de l'histoire de Roland-Garros.
Et puis bon, bien sûr, on connaît le fameux coup que j'ai réussi à faire entre mes jambes quand j'ai sauté et fait le passing contre Monica. Donc, c'était beau, quoi, c'est sympa.
Après avoir battu Monica Seles et Martina Hingis, Marie Pierce affronte l'Espagnole Conchita Martinez en finale.
S'il vous plaît. Je me souviens du bal du match. J'essaie de juste prendre mon temps, de respirer, de juste pas penser au score. En fait, des fois, dans ma tête, je me disais un autre score, genre 30-15 ou 15 partout. C'est très difficile à décrire et mettre ça dans les mots parce que c'est quand même incroyable. C'est le moment qu'on espérait de toute notre carrière, tout ce qu'on a fait pendant des années pour ce moment-là. En fait, je ne peux pas croire, je l'ai fait, c'est incroyable. Et puis on regarde le public, notre équipe, nos familles et c'était le meilleur moment de ma carrière.
Réalisation Christophe Perron, mixage Loïc Villot. Rendez-vous sur les plateformes de la FFT pour les prochains épisodes.